Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et le livre d'Isaïe est souvent appelé par les auteurs cinquième évangile. Vous savez qu'il n'y a que quatre évangiles canoniques. Bien sûr, on va mettre de côté tous les évangiles qu'on appelle apocryphes, ceux que Science et Vie et toutes ces revues antichrétiennes vont remettre sur le tas chaque année pratiquement. Évangile de Judas, donc écrit juste avant de se pendre, soi-disant, bien sûr, évangile de Thomas, évangile de je sais pas qui, enfin bref, tout ça, ils sont bien connus dans l'Antiquité chrétienne et ils sont bien connus comme émanant de sectes qui s'étaient séparées de l'Église, notamment de milieux gnostiques. Donc, il n'y a que quatre évangiles. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un livre prophétique, celui d'Isaïe, qui est tellement précis sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Isaïe qui dit que le Sauveur va naître d'une vierge en particulier, mais surtout il va prophétiser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ plus de 700 ans auparavant. Le prophète Isaïe dit en particulier ceci, « Vraiment, donc il parle du Messie à venir, vraiment il a porté lui-même nos souffrances. » Et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ce sont les versets 4 et 5 du chapitre 53 d'Isaïe, bien connus. Ils sont très intéressants parce que ils nous montrent les trois aspects sous lesquels nous devons considérer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rentrons dans ce temps de la passion, la préparation la plus immédiate à Pâques, et donc nous méditons en particulier sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Première citation, vraiment, il a porté lui-même nos souffrances. Il s'est chargé lui-même de nos douleurs. C'est une vision extérieure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vision très importante parce que c'est la réalité. Chaque semaine, nous avons médité sur le chemin de la croix, chaque vendredi. J'espère que vous avez aussi, de votre côté, accompli cet exercice de piété important qui nous rappelle les étapes de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pas de façon absolue, puisque c'est vraiment le chemin de la croix. Donc, est mis de côté ce que nous méditons, d'autre part, dans les mystères douloureux de notre rosaire, du chapelet. D'abord l'agonie au jardin des Oliviers, souffrance morale tellement importante que notre Seigneur Jésus-Christ a une sueur de sang. Donc c'est un phénomène qui peut arriver face à une anxiété d'une gravité extrême. Et Saint-Luc donc remarque cette sueur de sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a cette vision de sa passion, de ses souffrances, et évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement un homme, et donc son corps humain réagit de façon très importante à cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est capturé par les soldats des princes des prêtres du Sanhédrin. Il est frappé, il est condamné par ces gens-là. Il est mis en prison, on le ressort de prison, on l'exhibe devant Pilate, puis Pilate le renvoie à Hérode, et puis Pilate le fait flageller gravement. Les soldats romains en faction En garnison chez les juifs, ils n'aimaient pas tellement les juifs en règle générale. Donc s'ils peuvent ça, et puis ils n'avaient pas vraiment d'action à accomplir, donc s'ils peuvent satisfaire leur goût de la violence sur quelqu'un, ils s'en donnent à cœur joie. Hein, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs est très visible, notamment sur le sanctuaire de Turin. C'est très intéressant, enfin, c'est très émouvant bien sûr de voir cela, mais c'est très intéressant parce que nous retrouvons les instruments de torture qui effectivement étaient utilisés par les Romains. Hein, c'était pas des simples fouets à lanières de cuir. On mettait des osselets, on mettait des bits de plomb, et on voit ces marques sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même l'étude scientifique a montré que il ne peut pas s'agir d'un faux, parce que il n'y a pas qu'une seule personne qui a frappé. On peut déterminer par les angles de frappe qu'il y a deux personnes au moins de tailles différentes qui ont frappé ce corps qui a été mis dans le linceul. Nous savons ensuite qu'il est couronné d'épines. Ça, ce sont les souffrances extérieures, l'humiliation. On se moque de lui, on lui crache dessus, on lui donne des coups de poing. Ses soldats le traitent de roi de pacotille finalement. Et d'ailleurs auparavant, Hérode l'avait traité de fou. La robe blanche que Hérode lui met sur le dos, c'était la robe qu'on mettait pour désigner les fous. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ, voilà toutes ses souffrances avant même le jugement final de Pilate et ce chemin de croix que vous avez médité. Donc imaginez un peu tout cela, c'est ce que nous dit le prophète Isaïe. Vraiment, il a porté lui-même nos souffrances, il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Et même avant cette passion, notre Seigneur Jésus-Christ avait une véritable nature humaine. Il a une véritable nature humaine. Nous le voyons pendant le carême, Jésus a soif, Jésus a faim. Jésus, il pleure. Vous avez lu ce magnifique épisode de la résurrection de Lazare. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ pleure aussi dans son agonie. Donc, il a pris sur lui toutes les souffrances possibles que les hommes peuvent endurer, jusque, bien entendu, à être crucifié, ses mains percées de clous et élevées sur le bois de la croix. Voilà la description, la matérialité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien qu'à réfléchir sur cela, bien sûr, nous devons en être émus, sinon nous ne serions pas véritablement humains et même pas catholiques. Nous devons avoir de la compassion pour les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est l'aspect extérieur. La deuxième citation, qui est la suite tout simplement, nous dit la raison de ses souffrances. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Notre Seigneur Jésus-Christ est innocent par excellence, puisqu'il est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant toute sa vie humaine, n'a jamais rien fait de mal, évidemment, parce que il est Dieu, une personne divine. Mais mieux encore, notre Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit aux pharisiens, « Pour quel mal me condamnez-vous ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il n'y a rien fait de mal. Pourquoi les pharisiens, dans l'évangile que nous venons de lire, veulent lapider notre Seigneur Jésus-Christ ? Ils le disent, parce que, étant homme, il s'est fait Dieu. Mais c'est faux. C'est faux, il est Dieu. Donc, il l'accuse à tort. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, pourquoi il souffre ? Ce n'est pas pour des fautes personnelles, cela n'est pas possible. Pourquoi il souffre? C'est à cause de nos crimes, c'est à cause de nos fautes. Il prend sur lui nos fautes, il prend sur lui nos crimes. Tout péché, toute faute est une offense à Dieu. Que les gens croient ou non à Dieu, qu'ils en soient absolument conscients ou non, tout péché est une offense à Dieu. Parce que tout péché est un désordre contre l'ordre institué par Dieu. Donc tout péché offense Dieu. Tout péché est un désordre. Tout désordre mérite une réparation de l'ordre. On n'a plus cette mentalité, et de moins en moins aujourd'hui, cette mentalité de la nécessité de réparer les fautes, de réparer les péchés. Alors que c'est vraiment une nécessité. Et que nous avons ce sens de la réparation du péché depuis le début, depuis le péché originel, dans tout l'Ancien Testament, et même dans les fausses religions païennes dévoyées, il y a cet état d'esprit de réparer les fautes qu'on aurait pu commettre vis-à-vis, bien sûr, de leur faux Dieu pour attirer de nouveau leur grâce. Donc, c'est quelque chose, une fois de plus, bien sûr, dans notre monde qui va de plus en plus vers l'athéisme, le relativisme religieux, on n'a plus ce sens de la réparation des fautes. Regardez même dans la société. Dans la société, quelle est la peine ? On ne veut même plus parler de prison, mais de lieu de privation de liberté, n'est-ce pas ? C'est plus long, ça fait plus de lignes, et c'est une circonlocution. Et on ne veut plus appeler un chat un chat. On ne veut plus, bien sûr, de la peine capitale. On ne veut plus des peines intermédiaires. Dans l'Ancien Testament, on a les coups de bâton, etc. Et aujourd'hui, on a de la prison qui coûte cher à la société et on a des amendes qui rapportent à la société, mais beaucoup moins que ce que coûte la prison. Bref, et la prison, c'est un lieu pour réhabiliter, soi-disant, les criminels, ou pour protéger la société. Alors ça, c'est vrai, par contre, c'est peut-être le seul point encore exact, c'est que les criminels les plus graves, il faut en protéger la société. Et les criminels les plus graves, normalement, toute société bien constituée devrait penser qu'il faut s'en débarrasser tout simplement. Cela paraît dur, mais ça a toujours été la doctrine de la Sainte Église, parce que c'est tout simplement révélé par Dieu. C'est ce qui se passe dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que ces derniers soi-disant papes, n'est-ce pas, comme Benoît XVI ou encore François ou autres, qui condamnent de façon explicite la peine de mort, c'est contre la foi de condamner la peine de mort en tant que telle. C'est contre la foi parce que la foi nous dit que la peine de mort est licite. Par contre, l'Église n'est pas nécessairement pour qu'elle soit toujours appliquée, et surtout elle n'est pas pour qu'elle soit appliquée n'importe comment, soit dit en passant. Mais l'Église n'a jamais dit « c'est immoral la peine capitale ». Donc tout péché mérite une réparation. Nous devons en avoir conscience. Et notre Seigneur Jésus-Christ et cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous le montrent. Et là aussi, c'est quelque chose de foi, puisque c'est précisément le mystère de la rédemption tel qu'il est exprimé ici par le prophète Isaïe. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été transpercé, c'est à cause de nos crimes. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été écrasé de souffrance, c'est à cause de nos péchés. Et c'est ça que nous devons voir quand nous regardons, lorsque nous sommes émus par les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est bon de l'être, même dans notre chair, d'être émus par les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous dire que c'est à cause de nous. À cause de nous. Donc, nous devons avoir les sentiments, évidemment, de contrition qui répondent à cela. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nos péchés. S'il a souffert, c'est pour nos péchés. À chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous infligions un coup à notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre, selon, bien sûr, la gravité des péchés. Voilà ce que nous faisons lorsque nous péchons. Donc, nous devons aussi, bien sûr, nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ et réparer nos péchés. Troisième citation. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés n'ont pas été vaines, parce que tout ce que fait le Verbe de Dieu incarné est nécessairement efficace. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection et même pendant toute sa vie, bien sûr. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité toute réparation de tous nos péchés et nous a mérité toutes les grâces pour avancer dans la vie spirituelle vers notre fin ultime, qu'est la béatitude éternelle. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement efficace. Par contre, c'est à nous de chercher la paix. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Mais celui qui ne veut pas la paix avec Dieu, celui qui ne veut pas profiter des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses grâces, il n'en profitera pas, malheureusement. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Mais ceux qui veulent rester malades, ou ceux qui ne se considèrent pas malades, ou ceux qui, bien que se considérant malades spirituellement, ne vont pas chercher le remède où il faut, ils ne seront pas guéris. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'applique donc pas de façon automatique, contrairement, une fois de plus, malheureusement, au discours qui est servi, qui était servi et qui est encore servi par les Jean-Paul II et successeurs, où tout le monde, même sans le savoir, disait Jean-Paul II, est sauvé. C'est faux. Quand on dit que tout le monde est sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, on dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité par sa vie, par sa passion, par sa mort, par sa résurrection, nous a mérité le pardon de nos péchés et toutes les grâces pour notre salut. Mais il nous a sauvés alors que nous sommes des hommes, alors que nous avons une liberté. Donc, il nous sauve tel que nous sommes, en tant qu'hommes. Ça signifie que nous avons la possibilité de répondre ou de ne pas répondre à ce salut. Nous avons la possibilité, malheureusement, de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir comprendre qu'il faut trouver notre salut dans les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important, bien entendu, de le comprendre. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, mais nous devons aller chercher cette paix. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison, mais nous devons vouloir cette guérison. Et nous devons prendre les moyens qui nous donne cette guérison. Celui qui veut être guéri d'une maladie physique, il doit se soigner. Ça ne vient pas tout seul. Il doit prendre les moyens pour se soigner. A fortiori, dans l'ordre spirituel, surnaturel, où nous devons notre vie surnaturelle, la grâce sanctifiante, directement à Dieu, a fortiori, bien entendu, dans nos maladies spirituelles, que sont les péchés, il est absolument nécessaire de faire appel aux grâces de notre Seigneur Jésus-Christ et à sa passion. Sinon, il est impossible de guérir. Il est impossible de se sauver. Donc, celui qui ne veut pas cela, il ne veut pas se sauver. C'est pour ça que l'enfer existe. Et que ceux qui y sont, pourquoi ils y sont, c'est de leur faute. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veuille condamner des gens. Dieu n'est pas sadique. Ce sont ces gens, ces âmes malheureuses, qui n'ont pas voulu de Dieu, qui n'ont pas voulu de ses grâces, qui n'ont pas voulu de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il nous l'a montré dans sa passion. Il en a fait quand même pour nous montrer son amour. C'est pas juste des petites souffrances. Hein? Et en plus, il a voulu nous donner cette grâce immense dans cette relique du Saint-Suaire de Turin, où nous pouvons toucher avec nos yeux, bien sûr, où la science a pu découvrir, confirmer tout ce que contiennent les évangiles. Et pourtant, les hommes n'en veulent toujours pas. Et après, ils vont se plaindre, l'enfer, etc. Mais non. Ceux qui ne veulent pas de Dieu n'auront pas Dieu. Ceux qui haïssent Dieu haïront Dieu éternellement. Pourquoi notre Seigneur a une sueur de sang? Pourquoi il pleure? Pour cela, pour ses âmes. Parce que lui, il va tout donner, et il y a des gens qui encore ne voudront pas recevoir. Parce que lui, il nous a donné tous les moyens, mais nous, on préfère rester dans nos erreurs, dans nos fautes, dans notre confort, en se disant que ce n'est pas si grave, que Dieu est bon et miséricordieux et qu'il nous sauve. Oui, Dieu est bon, il est miséricordieux, il nous sauve. Mais si on ne veut pas faire ce qu'il nous demande, il ne faut pas espérer être sauvé. Si on ne prend pas les médicaments, il ne faut pas espérer guérir. C'est tout, c'est logique, même au point de vue simplement humain. Donc, voilà ce que nous dit le prophète Isaïe. Vraiment, il a porté sur lui nos souffrances et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Pendant ce temps de la passion, contemplons les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons sur ses douleurs. Cela est bon pour notre âme. Deuxièmement, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Allons plus loin dans la méditation des souffrances. Sachons que c'est à cause de nous. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons commis dans notre vie, de mal, les moindres choses et les choses plus graves, tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ le voyait. Pour tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ a réparé, effectivement. Mais, troisièmement, le châtiment qui nous rend la paix sur lui, dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Mais il faut aller dans ses blessures. Il faut rentrer dans ses blessures. Il faut accepter d'être lavé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut accepter les moyens de salut donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il y a les sacrements. Je vous rappelais cette nécessité de la communion pascale. Je vous rappelais cette nécessité de la confession, parce que c'est dans les sacrements qu'on va pouvoir profiter du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les sacrements, et d'ailleurs spécialement dans le sacrement de la confession, dans le sacrement de pénitence, que nous allons pouvoir dire à notre Seigneur Jésus-Christ, je sais, je suis conscient, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ceci et cela m'a éloigné de vous, m'a détourné de vous. Toutes ces choses-là vous ont infligé des coups, vous ont couronné d'épines, craché dessus, etc. Je suis, moi, ce Barabbas, ce criminel auquel vous êtes préféré. C'est moi, et je reconnais mes fautes. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ peut faire couler sur nous son sang et ses grâces. Donc il ne faut pas avoir peur de la confession. Elle est faite pour cela, et le prêtre, normalement constitué, convenablement formé, il est là pour vous pardonner. Il est là justement pour déverser sur vous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ses grâces, vous laver et donc vous sauver. C'est pas lui, c'est pas le prêtre qui vous sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne les grâces, évidemment. Mais il en est le ministre, l'instrument, et il est là pour cela. Donc, troisièmement, il faut profiter de cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut chercher la paix avec nous-mêmes, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre conscience, la paix avec Dieu dans le sacrement de pénitence en particulier, parce que c'est dans ces blessures que nous trouverons la guérison. Nous demandons à notre Seigneur vraiment cette grâce de rentrer correctement dans le temps de la Passion et bientôt dans la Semaine Sainte pour pouvoir au mieux profiter de ces grâces liturgiques et surtout de cette grâce d'une grande contrition de nos fautes et de faire le nécessaire pour les laver dans le sang de notre Seigneur à travers le sacrement de pénitence. Et si nous avons déjà fait cela, eh bien, unissons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de souffrances avons-nous chaque jour à supporter, certainement beaucoup dans la pratique quotidienne des vertus, des soucis, etc. Et voilà, ce sont des moyens pour nous, à partir du moment où nous sommes sortis du péché, ce sont des moyens de nous unir encore davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. De Barabbas, nous passons aux saintes femmes, à Saint Jean, qui sont restés fidèles à notre Seigneur et qui l'ont suivi jusqu'au pied de la croix pendant toute sa passion, pendant toutes ses souffrances. Nous sommes ces personnes-là et nous devons l'être tout simplement pendant ce temps de la passion. Voilà, c'est la grâce que nous demanderons et surtout, eh bien, appliquons-nous à mieux méditer, à mieux rentrer dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à mieux en profiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.